Chapitre 11. La lettre d'introduction. Je regardai la maison. C'était une auberge de mince grandeur, mais de respectable apparence. Si je voulais être utile à ma compagne ce soir-là même, le moment était venu de lui parler d'autre chose que de ses rêves. « Après tout ce que vous m'avez raconté, lui dis-je, je ne vous demanderai pas de m'admettre davantage dans votre confidence avant notre prochaine rencontre. Dites-moi seulement comment je puis calmer vos plus pressantes inquiétudes. Quels sont vos projets? Puis-je vous y aider avant que vous alliez vous reposer cette nuit ?» Elle me remercia chaleureusement et hésita, en regardant d'un bout à l'autre de la rue, embarrassée qu'elle était, évidemment, de ce qu'elle devait ajouter. « Vous proposez-vous de rester à Édimbourg ? » lui demandai-je. « Oh non, je ne désire pas rester en Écosse. Je veux aller beaucoup plus loin. Je pense que je me tirerais mieux d'affaire à Londres, chez quelque couturière respectable, si je pouvais lui être convenablement recommandée. Je suis habile à coudre et je connais la coupe des robes. » Je pourrais aussi tenir des livres si l'on avait confiance en moi. » Elle s'arrêta et me regarda d'un air de doute, comme si, pauvre femme, elle était loin d'être certaine de gagner tout d'abord ma confiance. Je saisis cette ouverture avec l'impétuosité inconsidérée d'un amoureux. « Je puis justement vous donner la recommandation dont vous avez besoin, dis-je, quand vous voudrez, à l'instant même si vous le désirez. » Ses traits charmants s'animèrent de plaisir. « Oh, vous êtes un véritable ami pour moi !» dit-elle involontairement. Son visage s'assombrit de nouveau en considérant mon offre sous un autre point de vue. « Ai-je le droit, dit-elle tristement, d'accepter votre proposition ?»« Laissez-moi vous remettre la lettre, répondis-je, et vous déciderez vous-même si vous devez, oui ou non, vous en servir. » Je replaçai sa main sur mon bras et j'entrai dans l'auberge. Elle se recula effarouchée. Que penserait l'aubergiste de voir sa locataire rentrer la nuit à la maison en compagnie d'un gentleman étranger? L'aubergiste parut au moment où elle m'adressait cette objection. Indifférente à ce que je disais ou faisais, je m'annonçai moi-même comme un de ses parents et je demandai une chambre écartée dans laquelle je puisse écrire une lettre. Après m'avoir lancé un coup d'œil pénétrant, l'aubergiste parut convaincue qu'elle avait affaire à un gentleman. Elle nous conduisit dans une salle derrière le comptoir, plaça sur la table ce qu'il fallait pour écrire, regarda ma compagne comme une femme seule peut en regarder une autre en certaines circonstances et nous laissa seuls. C'était la première fois que je me trouvais seule dans une chambre avec elle. Le sentiment de sa situation délicate avait avivé son teint et ses yeux. Confuse et irrésolue, elle s'appuyait d'une main sur la table. Sa taille ferme et souple s'inclinait en une attitude d'une grâce naïve, littéralement ravissante à considérer. Je ne prononçais pas une parole. Mes yeux seuls dénotaient mon admiration et les ustensiles à écrire demeuraient oisifs devant moi sur la table. Combien de temps eût pu durer ce silence, je ne puis le dire. Elle le rompit brusquement. Son instinct l'avertit de ce qu'il pouvait présenter de danger dans notre situation. Elle se tourna vers moi avec effort et me dit avec gêne « Je ne pense pas que vous puissiez écrire votre lettre ce soir, monsieur. »« Et pourquoi pas ?»« Vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez certainement pas recommander une personne qui vous est étrangère. Et je suis pire qu'une étrangère. » Je suis une misérable qui a tenté de commettre un grand péché, j'ai essayé de me détruire. Peut-être le malheur qui m'accablait pourrait-il me servir d'excuse si vous le connaissiez. Il faut donc que vous le connaissiez. Mais il est trop tard cette nuit. Je suis profondément fatiguée, et puis il est certaine chose, monsieur, qu'il n'est pas facile à une femme de raconter en présence d'un homme. » Sa tête s'affaissa sur sa poitrine. Ses lèvres délicates tremblèrent un peu et elle se tut. Le moyen de la rassurer et de la consoler se trouvait clairement à ma portée si je savais l'employer. Je l'employai sans m'arrêter à réfléchir. lui rappelant qu'elle m'avait offert de m'écrire lorsque nous nous étions rencontrés le soir même, je l'invitai à attendre pour me raconter la triste histoire de ses malheurs, qu'il lui convint de m'en adresser le récit sous forme de lettre. « En attendant, ajoutai-je, j'ai la plus parfaite confiance en vous, et je vous demande, comme une faveur, de me permettre de vous en donner la preuve. Je puis vous recommander à une couturière de Londres, à la tête d'un grand atelier, et je vais le faire avant de vous quitter ce soir. » Je trempai ma plume dans l'encre en prononçant ces paroles. « Permettez-moi d'avouer franchement jusqu'où m'entraîna mon infatuation. » La couturière dont je venais de parler avait été jadis la femme de chambre de ma mère et elle s'était établie avec l'argent que lui avait prêté feu mon beau-père, M. Germaine. Je me servis de leur nom sans scrupule et j'écrivis ma recommandation dans des termes que la meilleure des femmes et la plus habile des couturières n'auraient jamais pu espérer mériter. Se trouvera-t-il quelqu'un pour m'excuser ? Les rares individus qui ont aimé et qui ne l'ont pas encore complètement oublié le pourront peut-être. Peu importe, je ne mérite aucune excuse. Je lui tendis ma lettre ouverte pour la lire. Elle rougit délicieusement et me jeta un tendre regard que je me rappelai bien plus tard. Un moment après, à mon grand étonnement, cette mobile créature changea de nouveau d'aspect. Quelques réflexions inopinées parut lui être venues. Elle pâlit, les traits doucement satisfaits de son visage s'endurcirent peu à peu. Elle me jeta un triste regard de confusion et de désespoir et, posant la lettre devant moi sur la table, elle me dit timidement « Voudriez-vous y ajouter un post-scriptum, monsieur ?» Je supprimai du mieux que je pus tout indice de surprise et je repris la plume. « Voulez-vous ajouter, continua-t-elle, que je ne dois d'abord être prise qu'à l'essai et que je ne puis m'engager pour plus de... » Ici, sa voix baissa tellement que j'eus peine à entendre ses dernières paroles. « Pour plus de 3 mois, certainement. » Il n'était pas dans la nature humaine, peut-être devrais-je dire dans la nature d'un homme placé dans ma situation, de pouvoir s'abstenir de témoigner quelques curiosités à la demande d'ajouter un pareil post-scriptum à une lettre de recommandation. « Avez-vous donc en vue quelque autre emploi ?» lui demandai-je. « Aucun !» me répondit-elle, la tête baissée et en évitant mes regards. Un soupçon indigne d'elle, vil fruit de la jalousie, me traversa l'esprit. « Avez-vous quelque ami absent, continuai-je, qui puisse être pour vous un meilleur ami que moi, si vous lui en accordez le temps ?» Elle releva sa noble tête. Ses grands yeux gris naïfs s'arrêtèrent sur moi avec un regard de doux reproche. « Je n'ai pas un seul ami dans le monde, dit-elle. Pour l'amour de Dieu, ne m'interrogez pas davantage ce soir. » Je me levai et lui remis la lettre avec le post-scriptum écrit sous sa dictée. Nous étions tous deux debout près de la table. Nous nous regardâmes un instant en silence. « Comment puis-je vous remercier ? » murmura-t-elle doucement. « Oh, monsieur, je me montrerai digne de la confiance que vous me témoignez. » Ses yeux se mouillèrent, son teint pâlit et rougit, son corsage se souleva doucement sur l'adorable contour de son sein. Je ne crois pas qu'il existe un homme qui eût pu résister en ce moment. Je perdis tout contrôle sur moi-même. Je la saisis dans mes bras en murmurant « Je vous aime » et je l'embrassai avec passion. Pendant un moment, elle demeura tremblante et inerte sur ma poitrine. Pendant un moment, ses lèvres embaumées répondirent doucement à mes baisers. Un instant après, elle s'arrachait de mes bras en frissonnant de la tête aux pieds et elle jetait par terre, avec indignation, la lettre que je venais de lui donner. « Comment osez-vous abuser de moi ? Comment osez-vous me toucher ? » dit-elle. « Reprenez votre lettre, monsieur. Je refuse de l'accepter. Je ne vous reparlerai de la vie. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous ne savez pas combien vous m'avez blessé profondément. » « Oh ! » s'écria-t-elle en se jetant avec désespoir sur le sofa placé près d'elle. « Recouvrerai-je jamais ma propre estime ? Me pardonnerai-je jamais ce que j'ai fait ce soir ? J'implorais son pardon, je l'assurais de mon repentir et de mes regrets dans des termes réellement sortis du cœur. La violence de son agitation ne m'affligeait pas seulement, elle m'alarmait sérieusement. Elle se remit au bout de quelque temps, se leva avec une dignité modeste et me tendit silencieusement la main en témoignage d'acceptation de mon repentir. « Vous m'accorderez le temps d'expier ma faute, lui dis-je. Vous ne perdrez pas toute confiance en moi. Quand ce ne serait que pour vous prouver que je ne suis pas complètement indigne de votre pardon, permettez-moi de vous revoir, à votre heure, et en présence d'un tiers, si vous le désirez. »« Je vous écrirai, répondit-elle. » « Demain ? Demain ! » Je ramassai sur le parquet la lettre de recommandation. « Que votre bonté pour moi soit complète, lui dis-je. Ne me faites pas l'injure de refuser d'accepter ma lettre. »« Je l'accepte, répondit-elle tranquillement. Merci de l'avoir écrite. Et maintenant, retirez-vous, je vous prie. Bonne nuit. » Je la quittai, pâle et triste, et ma lettre dans la main. Je la quittai, l'esprit agité par mille émotions contradictoires qui se réduisirent en marchant à deux sentiments dominateurs, mon amour pour elle plus fervent que jamais et l'espoir de la revoir le lendemain.